Bonjour, nous entamons une table ronde.
Il manque un truc.
Je sais pas si. Non. Bonjour.
Ah ouais.
C'est mieux.
Alors, cette table ronde, je vous en rappelle l'intitulé. À l'ombre du numérique, le livre papier a-t-il encore un avenir ? C'est un titre intéressant. Ça n'est pas la première fois qu'on parle du livre numérique, en particulier aux Imaginales. On en parle de plus en plus, de manière générale. On en parle habituellement en disant quel est l'avenir du livre numérique, commence-t-il à avoir une place significative. À ma connaissance, c'est quand même la première fois qu'on aborde la question d'une manière qu'on peut trouver un petit peu brutale et directe, en tout cas, dont on n'était pas coutumier, en disant « est-ce qu'il y a encore un avenir pour le livre papier ?» Je pense qu'on est en train de prendre un virage rien que par la forme de la question qui se pose maintenant. On est, avant de réfléchir d'un point de vue prospectif sur le long terme, il est intéressant de faire le point sur les expériences en cours. Et pour en parler avec nous, nous avons un des acteurs les plus impliqués dans le numérique et les plus actifs, qui est Stéphane Marsan, le directeur littéraire des éditions Bragelonne. Les éditions Bragelonne, je pense que tout le monde connaît, gros éditeur dans le domaine de la science-fiction. Je pense qu'il ne m'en voudra pas si je dis que du point de vue des gros acteurs de l'édition en général et au-delà de l'imaginaire, la maison d'édition Bragelonne n'est pas une des très grosses maisons d'édition. Il y en a qui sont immenses. Ceci dit, par rapport au numérique, les éditions Bragelonne ont réussi à déployer une offre si importante qu'elle se situe au niveau des gros acteurs du domaine de l'édition, ce qui est quand même tout à fait remarquable. Stéphane Marsan s'est lancé dans l'aventure depuis un certain temps déjà. Je crois que la première chose que nous pouvons faire, c'est lui demander un bilan de l'expérience finalement et de l'aventure qu'a constitué le grand engagement dans le numérique qui a été pris par les éditions Bragelonne depuis un certain temps déjà.
Oui, bonjour. Bonjour. Merci Sylvie pour cette introduction. L'initiative de Bragelonne dans le numérique a commencé en novembre 2010, très exactement, c'est-à-dire que c'est à cette date que nous avons publié nos premiers titres au format du livre numérique. Et elle a consisté, comme souvent dans notre façon de fonctionner, à ne pas y aller avec le dos de la cuillère et à se dire qu'il fallait aider à construire un marché. Et donc, puisque tu as raison, Sylvie, d'ouvrir la question en termes d'offres, donc avoir une offre, c'est-à-dire d'avoir un nombre de titres et une variété dans ces titres suffisamment grande pour que cette offre soit digne de ce nom. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le lecteur ait le choix, que ce soit dans le livre papier, quels que soient ses formats, et également le format numérique, pour qu'ils puissent avoir envie de tenter l'expérience et d'acheter des livres numériques. Donc l'offre de Bragelonne, elle consiste à publier sous format numérique des ouvrages que nous avons déjà publiés ou que nous publions en même temps en papier. Ok, c'est bon, vous entendez toujours, hein? D'accord. Et ce d'une façon régulière et en grande quantité. Ça veut dire que nous avons dès le début décidé d'avoir un rythme de sortie hebdomadaire comme le cinéma, le même jour, et de sortir plusieurs ouvrages d'emblée, 4 d'un coup, 5 d'un coup, etc. Et que maintenant, cette offre est en train de se diversifier. Elle commence par des romans de fantasy, de science-fiction, de fantastique, de bitlit, qui sont évidemment, qui constituent notre catalogue. Et elle se diversifie maintenant vers d'autres choses, et on pourra en parler plus tard. Aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, nous avons à peu près 450 titres disponibles au format numérique, sachant que l'ensemble du catalogue du groupe, du petit groupe Bragelonne, c'est-à-dire qui inclut également Milady, qui est une collection, un label poche, et Castelmore, qui est un label destiné à la jeunesse, ainsi que Milady Graphics, qui est constitué de graphic novels, de comics et d'artbooks, c'est un peu plus de 1000 titres. Donc ça veut dire qu'à peu près la moitié de notre catalogue papier est aujourd'hui déjà disponible au format numérique. Deuxième chiffre, nous avons vendu en un an et demi à peu près 150 000 exemplaires. Ce qui fait de nous le troisième éditeur numérique en langue française, derrière, j'espère ne pas dire de bêtises, Hachette, groupe tentaculaire s'il en est, et je crois Albin Michel, qui très très tôt a numérisé une grande partie de son fonds. Ce qui est, je me permets de le dire, remarquable dans ce positionnement, c'est que, vous le voyez très bien, comparé à Hachette et Albin Michel, nous sommes minuscules. Nous avons un tout petit catalogue, et nous n'avons... Enfin, Albin Michel, c'est 300 millions de chiffre d'affaires. Nous, c'est 10 millions. Donc, ça veut dire qu'il y a une disproportion plutôt positive entre la place que nous avons aujourd'hui dans le domaine du numérique et la place que nous avons en librairie traditionnelle avec des livres papier. Cette offre, elle est liée à tout un ensemble de paramètres qu'il est, à mon avis, extrêmement important de prendre en compte parce qu'ils sont les clés de ce que je crois qu'on peut appeler un succès jusqu'à présent. Le succès, ça veut dire, en effet, être troisième éditeur en langue française dans le domaine du numérique, mais j'ai envie de vous dire plus encore, le succès, c'est de salarier deux personnes à plein temps avec les revenus du livre numérique. Ça veut dire que, en mesurant ses abattis, vendre du numérique, ça permet de constituer un chiffre d'affaires qui permet de payer des gens et de créer des emplois. C'est donc encore très restreint, mais d'un certain point de vue, c'est déjà significatif. Le numérique aujourd'hui, je dis très restreint parce que le numérique aujourd'hui représente à peu près 1% de notre chiffre d'affaires général, ce qui est très peu. Et ce qui est déjà quelque chose, puisqu'en un an et demi, somme toute, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que les meilleures ventes sont aux alentours de 2000-2500 exemplaires. Ben, écoutez, je pense que mes confrères éditeurs et éditrices conviendront avec moi que, par les temps qui courent, ma bonne dame, vendre 2000 ou 2500 exemplaires de plus, avoir 2000 ou 2500 lecteurs de plus pour un bouquin, ben, c'est toujours bon à prendre. Et c'est sans doute ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui dans le domaine du numérique. Quand je cite ces paramètres, ou plutôt j'y fais allusion, je vous dirais que ces paramètres sont d'abord la quantité et la diversité de l'offre, comme je l'ai dit. C'est aussi un ensemble de politiques commerciales et de dispositions techniques. Alors moi, je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un informaticien, je ne suis même pas un commercial, je ne suis pas un libraire, je suis un éditeur. C'est-à-dire que mon boulot, c'est de choisir des livres et de réunir les conditions pour qu'ils soient publiés et qu'ils trouvent des lecteurs. Mais en vous disant ça, je crois que je vous dis quelque chose d'important. C'est que, en étant tout à fait honnête, je pense qu'il y a deux ans et demi, je n'imaginais absolument pas qu'on allait développer le numérique comme ça, et j'imaginais pas du tout que j'y serais, que je serais impliqué dedans à ce point-là. Je pensais, je crois, que c'était un gadget. Et puis, finalement, j'ai étudié la question. Je suis allé faire un petit séjour à New York. J'ai été voir ce qui se passait là-bas. Et quand je suis revenu, j'avais complètement changé d'idée parce que je m'apercevais que le numérique n'était ni une mode ni un gadget, mais au moins le signal d'un changement profond dans le rapport que nous avons à la lecture, dans la conception que nous avons de ce qu'est un livre et... évidemment dans ce qui arrive aujourd'hui à l'industrie du livre, c'est-à-dire une crise très grave, peut-être même une faillite, du système de commercialisation du livre papier. J'insiste sur ces mots, c'est-à-dire je ne dis pas que c'est une crise de la lecture, je ne dis pas que c'est une crise de la littérature, etc. Je dis que c'est une crise du système de commercialisation du livre papier, c'est-à-dire globalement la diffusion, la librairie. Qu'est-ce qui m'a permis de changer d'idée là-dessus? C'est que, d'abord, on s'est rendu compte qu'il y avait à mettre en place une politique de prix pour laquelle notre initiative numérique chez Bragelonne est particulièrement renommée. À savoir que, sans doute au contraire de la plupart des acteurs de l'édition française, nous avons convenu immédiatement qu'il fallait que le livre numérique soit considérablement moins cher que le livre papier. Premièrement, parce qu'il s'agissait, comme je vous l'ai dit, de construire un marché. Donc si vous voulez attirer l'attention de clients potentiels et leur donner envie d'acheter, bah, les gens ils achètent plus volontiers des objets, des produits qui ont un prix faible qu'un prix élevé. Deuxièmement, parce que nous avons des millénaires d'histoire de notre civilisation qui ne nous permettent pas d'accepter facilement qu'un livre n'est pas la forme d'un livre et qu'il soit dématérialisé, c'est-à-dire qu'il ne soit ni inscrit, ni gravé, ni imprimé. Et que cette résistance, bien normale, il faut, je ne dirais pas la combattre, mais il faut la déjouer, il faut la changer, de façon à, selon une formule que j'ai le plaisir de partager avec les bibliothécaires qui sont impliqués dans le numérique, de façon à faire la différence entre le livre et la lecture, de faire la différence entre l'objet qui est lu et l'activité de lire. Et le numérique, c'est la proposition de la même activité de lire, mais sur un support différent, d'une façon différente, etc. Donc, avoir des prix particulièrement attractifs, c'est évidemment une façon de déjouer cette réticence et de donner envie d'essayer. Alors, je peux développer rapidement cette histoire de prix. Ça consiste globalement à proposer un livre numérique à au moins la moitié du prix du livre papier, c'est-à-dire de l'édition actuellement courante de ce livre. C'est-à-dire que si l'unique édition existante d'un ouvrage est un grand format à, disons, 20 euros, eh bien, il faudra que le livre numérique soit aux alentours de 12, 13 euros, voire moins au bout d'un certain temps. C'est-à-dire passer sans doute en dessous de la barre, si possible, en dessous de la barre des 10 euros, c'est-à-dire en dessous de la barre des 50%. Si le livre est disponible au format poche, c'est-à-dire aux alentours de 7, 8, 9 euros, il faudra là aussi faire un effort et le proposer à, par exemple, 5,99 €, et puis par la suite, au bout d'un certain temps, 4,99 €. Il ne faut pas descendre trop bas, parce qu'il ne faut pas laisser croire que le livre ne vaut rien, et que l'œuvre de l'auteur ne vaut rien, et que sa créativité, son importance ne valent rien. Donc, tout l'enjeu de la fixation du prix du livre numérique se situe dans ce rapport éternel, hein, dans notre métier, entre la valeur de l'œuvre et le prix du produit qui apporte l'œuvre vers le lecteur. Paramètres commerciaux et dispositions techniques. La disposition technique, c'est la fameuse question de la protection contre la copie illégale de l'ouvrage, qui prend en général la forme d'un système qui s'appelle le DRM. Donc ça veut dire que vous achetez, vous téléchargez un livre numérique et vous n'avez pas la possibilité de le copier, de le transmettre à quelqu'un d'autre. Il y a d'autres systèmes, comme le tatouage par exemple, qui permettent en tout cas de repérer si un livre qui est diffusé illégalement a été à l'origine acquis et donc diffusé illégalement par quelqu'un. La question de la protection du livre numérique est liée à la question de la protection du droit d'auteur. Il n'est évidemment aucunement question d'aller à l'encontre du droit d'auteur. Par contre, il est question de savoir comment est-ce que justement le livre numérique prend place dans une pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en fais quand je l'ai acheté, qu'est-ce que je crois que je devrais avoir le droit d'en faire. Si on vous disait que vous n'aviez pas le droit de prêter un livre que vous avez acheté, vous ne le comprendriez pas et vous aurez raison. Et donc, la question de la protection du livre numérique se pose. Le problème, c'est que cette protection est censée empêcher ou lutter contre le piratage, c'est-à-dire cette diffusion, cette copie illégale. Ça n'a absolument aucun sens, parce que la diffusion illégale d'exemplaires numériques d'un ouvrage, c'est comme la guerre de Troie, ça a déjà eu lieu. Tous les ouvrages sont déjà disponibles. Toute la musique est déjà disponible. Toutes les séries télé et tous les films. En tout cas, toutes les œuvres que les gens, aujourd'hui, ont majoritairement envie de regarder, lire, écouter et voir. Donc, lutter contre le piratage, ça consiste globalement à barricader sa porte contre un ennemi qui est déjà chez vous, tranquillement, en train de prendre le thé, et qui en plus se rit de votre barricade parce qu'il pourra la faire sauter n'importe quand. Et quand vous essaierez de faire fermer un site proposant illégalement ses œuvres et ses produits, 10 autres apparaîtront dans les 5 minutes. Et en plus, vous vous ferez détester de la communauté qui est familière d'Internet et de l'informatique. Et vous vous ferez détester de tous les gens qui ont acheté votre livre parce que les DRM, ça les emmerde et qu'ils ont envie de pouvoir faire ce qu'ils veulent avec. Donc, en gros, un, la guerre n'aura pas lieu parce qu'elle a déjà eu lieu. Deuxièmement, nous avons l'exemple de l'industrie de la musique qui a lutté contre le piratage pendant 10 ans, ce qui lui a coûté les yeux de la tête et une image absolument désastreuse qui n'a absolument rien empêché jusqu'à ce qu'un petit malin qui s'appelait Steve Jobs dise bah, « Somme toute, mon idée, c'est que ce que les gens trouvent déjà gratuitement sur Internet, moi, je vais leur proposer de l'acheter quand même. » Et il a créé iTunes et ça marchait du feu de Dieu. L'autre aspect du piratage que je trouve extrêmement intéressant, il y en a deux autres qui sont extrêmement intéressants. La première, c'est que quand nous avons lancé l'offre numérique de Bragelonne et que nous avons contacté les sites pirates que nous connaissions en leur disant « Les gars, copies numériques que vous diffusez illégalement, eh bien ça y est, maintenant on peut les acheter à un prix tout à fait abordable, d'une qualité exemplaire, très facilement sur toutes les plateformes et les sites connus. » Plus de la moitié des responsables de ces sites nous ont répondu ou ont écrit sur leur site « Formidable initiative, nous retirons de nos sites les copies illégales. » Pourquoi ? Parce que pourquoi s'emmerder à diffuser illégalement ou à aller télécharger illégalement une lecture qui coûte 4,99€, c'est-à-dire le prix d'un café crème dans un bistrot parisien ? Donc, la meilleure façon de lutter contre le piratage, c'est de publier numériquement et légalement et de s'adresser à eux. D'autant plus que, et j'aime à le rappeler, tous ces sites nous ont dit « Ah, oh, c'est vous, Bragelonne, c'est génial, on adore ce que vous faites. » Parce que ça, c'est toujours la bonne intention des pirates. Si j'adore ce livre, alors je voudrais que tout le monde le lise, donc je le diffuse illégalement, au mépris évidemment du droit d'auteur et de la rémunération de l'auteur, de l'éditeur et de tous ceux qui ont travaillé pour. Donc, somme toute, c'était plutôt sympa de discuter avec eux. Le deuxième aspect qui est extrêmement intéressant du point de vue du piratage, c'est une étude du Motif, qui est l'organe de l'Île-de-France dans le domaine du livre et de la lecture, qui a révélé il y a quelque temps les ouvrages les plus diffusés illégalement. Et quand nous avons regardé la liste de ces ouvrages-là qui viennent de notre catalogue, nous nous sommes rendus compte que nos ouvrages qui sont les plus piratés sont ceux dont les ayants droit, auteurs, agents, éditeurs, ne nous ont pas accordé le droit de les publier numériquement et donc nous n'avons pas pu les publier numériquement nous-mêmes. C'est donc une évidence que malheureusement beaucoup semblent avoir oublié ou ont négligé, c'est-à-dire qu'on ne vole que ce qui est cher et on ne diffuse illégalement que ce qu'on ne trouve pas facilement ou qu'on ne trouve pas du tout. Donc, non seulement on ne peut pas empêcher le piratage, mais surtout c'est une bataille vaine et absurde. Au contraire, il faut diffuser, vendre, proposer le plus clairement possible et le mieux possible des livres pour que les gens aient envie de les acheter et de les lire. Donc voilà en quelques directions la façon dont l'offre numérique de Bragelonne a été définie et déployée depuis un an et demi.
On est en train de parler de choses virtuelles, mais elles sont quand même très concrètes. Moi qui prends assez souvent le train, je suis très frappée ces derniers mois, et peut-être même ces dernières semaines, parce que ça va très vite, de voir la quantité de personnes qui auparavant avaient un livre traditionnel papier sur les genoux pendant les voyages, et qui de plus en plus ont entre les mains une liseuse, un petit lecteur Kindle, un iPad. Sur toutes les tables rondes ici, vous avez des auteurs et ils ont tous des livres devant eux. Je me suis dit qu'il fallait quand même, dans ce genre de circonstances, apporter sa petite bibliothèque numérique avec quelques ouvrages Bragelonne. Je ne sais pas si tout le monde a expérimenté. Je prête volontiers le mien après la table ronde à qui veut et qui aurait envie d'aller explorer les ouvrages en question. Ces ouvrages, du point de vue ergonomique, on y trouve un confort de lecture qui est maintenant assez optimal avec... Là, vous voyez, j'ai un petit marque-page, par exemple, pour retrouver où j'en étais, mais je peux annoter l'ouvrage que je suis en train de lire. Je peux mettre, rien qu'en passant mon doigt du surligneur pour repérer des passages que j'ai envie de retrouver facilement. Moi, personnellement, j'ose pas prendre un surligneur et mettre des grands coups de feutre dans mes livres papier, mais ici, on peut les enlever. Donc, voilà, on découvre à l'usage qu'on a d'abord... pratiquement tout le confort de lecture d'un ouvrage papier, peut-être même davantage, parce que je ne suis pas là pour faire de la pub pour le numérique, mais pouvoir lire dans son lit sans allumer la lumière, moi je trouve ça génial. On n'a pas besoin d'un éclairage particulier. Avoir 50 bouquins sur soi avec ce petit objet, moi qui habituellement, dès que je me déplace plus de 3-4 jours, aime bien en emporter 7 ou 8, ça fait lourd dans une valise. Bon, il est évident qu'il y a une quantité d'avantages pratiques qui font que un jour on aura à faire des choix. On en parlera plus tard, c'est plutôt les questions qu'on garde pour la fin. On est sans doute dans une période où on a une complémentarité entre différentes manières de lire. Stéphane nous disait le livre et la lecture, c'est pas la même chose. Il y a plein de pistes intéressantes à creuser. Moi j'avais envie de te poser une question très, très précise sur une opération très attractive que Bragelonne a lancée pendant une période courte. Les éditeurs, pour parler d'un aspect un peu technique, ont dorénavant le contrôle total, la maîtrise du prix de vente. Mais ce qui est nouveau par rapport au livre papier, c'est un prix qui peut être contrôlé, qui peut être évolutif. On en a beaucoup parlé quand la TVA a changé sur le livre papier. Tous les livres qui avaient leur prix de vente affiché sur le livre, finalement, les libraires, les vendeurs, étaient obligés de recalculer avec le nouveau taux de TVA un prix final qui variait de quelques centimes par rapport au prix affiché. Ça a fait s'arracher les cheveux à tout le monde. Avec le numérique, si tu décides demain, ou peut-être dans 15 jours, parce que ça se planifie un petit peu, que... tel ouvrage, pendant un certain temps, va être vendu 1,99€ au lieu de 6,99€. C'est tout à fait possible et c'est entièrement sous le contrôle de l'éditeur. Donc les éditions Bragelonne ont lancé une opération de ce type, à grande échelle, sur une centaine de titres, pour un prix extrêmement attractif. Bon, moi je me suis précipitée, évidemment, j'imagine que beaucoup d'autres se sont précipités. Est-ce que vous avez un retour d'expérience? Est-ce que vous avez appris des choses lors de cette...
Oui, en effet, c'est un aspect qui est extrêmement pratique du livre numérique. C'est que la pratique commerciale de l'édition est souvent rendue difficile par des aspects purement physiques ou commerciaux, de diffusion, etc., et comme par exemple créer des promotions dans l'édition, c'est extrêmement lourd. Enfin, je suppose que c'est pareil avec les yachts ou les automobiles, hein. Mais on aimerait pouvoir, surtout dans une période où on a envie de recruter des lecteurs, on aimerait pouvoir souvent créer en effet des opérations et par exemple proposer un prix plus attractif pour une durée limitée. C'est très difficile parce que vous vous doutez bien, et en effet l'exemple de l'augmentation de la TVA est excellent, c'est-à-dire que tous les libraires de France et de Navarre ont été obligés de réétiqueter les bouquins qu'ils avaient en stock, ça leur a pris un temps fou. Et j'ai presque envie de dire pire que la perte de revenus liée à l'augmentation de la TVA, en fait c'est ce qu'ils ont le plus perdu, c'est leur temps, et le temps c'est vraiment ce qu'on a de plus précieux. C'est très difficile. Avec le numérique, c'est évidemment possible parce qu'il n'y a pas à réédicter. Il suffit, entre guillemets, de changer le prix affiché sur un site. Et ça, on peut le faire du jour au lendemain, dans la mesure où on est en bonne entente avec, avec les diffuseurs et les plateformes de vente. Alors, à quoi ça sert? Donc, ça veut dire concrètement, en effet, que le livre qui était à 5,99€, on peut décider que pour 24 heures, ou pour une semaine, ou pour 3 mois, comme vous voulez, eh ben, il est à 2,99€. Et en effet, on a voulu marquer le coup le 1er avril dernier, puisque le 1er avril est la date anniversaire de Brajlon, qui a été créée le 1er avril 2000, avec une opération qui s'appelait l'opération 100K, et qui consistait à proposer 100 titres, 100 ouvrages, 100 ouvrages, à 0,99 centimes, pendant 24 heures. On en a vendu 15 000. Mais ce qu'il y a de plus intéressant avec ça, ça veut dire que c'est qu'on a recruté du lectorat. C'est que, évidemment, beaucoup de gens ont pu acheter des ouvrages qu'ils n'auraient pas achetés sinon. Et surtout, des débuts de série et découvrir des nouveaux auteurs, etc., etc. Et je pense que cette flexibilité commerciale du numérique permet de faire ça. Si vous voulez, dans le livre, on peut difficilement faire des bandes-annonces attrayantes. C'est-à-dire, il y a des bandes-annonces pour des livres, mais enfin, ce n'est pas comme la bande-annonce d'un film qui vous donne, enfin, qui est censée vous donner une idée du film et envie d'aller le voir. Pour un livre, même lire quelques pages, lire un extrait, c'est quand même pas grand-chose. Proposer pour un temps très limité un ouvrage ou un extrait d'ouvrage à un prix très réduit permet de faire ça. C'est quelque chose qui, sans doute, étonne, voire choque un peu dans notre pays et dans notre société, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de ça. Et ça me permet quand même de dire, j'ai parlé d'une civilisation millénaire qui nous permet difficilement d'accepter qu'un livre soit dématérialisé ou qu'une lecture soit faite sur quelque chose qui n'est pas physique, bien que, somme toute, la liseuse, hein, ton iPad, il est physique.
Ah oui. S'il tombe, il se casse.
C'est... alors qu'un livre, non. C'est que... Enfin, sauf dans le bain. Bon. C'est que nous sommes dans une société, dans une culture, si vous voulez, où la littérature est sacrée et où le livre est sacré. Ce qui offre des avantages et ce qui crée des inconvénients. L'inconvénient primordial, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, du coup, n'accèdent pas à la lecture parce qu'ils ont le sentiment que c'est inaccessible, que c'est intouchable, que c'est trop précieux pour eux, qu'ils n'y ont pas droit, qu'ils ne sont pas assez intelligents, etc., etc. Nous, chez Brajlon, moi qui regarde donc beaucoup du côté des anglo-saxons, pas nécessairement pour nous en faire des modèles, mais pour comparer la façon dont ils fonctionnent et la façon dont ils pensent par rapport à la nôtre, et des façons qui sont très différentes. Et quand je dis les anglo-saxons, je ne pense pas seulement aux Américains et aux Anglais, je pense aussi aux Allemands, qui sont très... beaucoup plus proche des Américains que des pays européens dans leur capacité d'adaptation, de réaction, d'adoption de nouvelles idées, de nouvelles tendances, de nouvelles façons de commercialiser. Je me rends compte que leur rapport au livre est complètement différent. Ils n'ont pas cette idée que le livre et la littérature, c'est sacré. Et donc, ils ont au contraire une facilité d'accès, une facilité à s'emparer de l'ouvrage et de la lecture qui est infiniment plus importante que la nôtre et qui leur permet d'avoir un marché beaucoup plus important. Les anglo-saxons achètent et lisent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que nous. Donc, le numérique, ça sert aussi à ça. Ça sert à se dire que lire, c'est plus facile qu'on ne le croit, que acheter un livre, c'est plus facile qu'on ne le croit. Je suppose que si vous êtes dans cette salle et que vous venez à ce merveilleux festival, c'est que pour vous, la lecture est une pratique facile, régulière. Mais nous sommes l'arbre qui cachons la forêt. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'osent pas rentrer dans une librairie parce que c'est impressionnant. Qui n'osent pas rentrer dans une librairie parce qu'ils n'ont pas le sentiment que c'est un lieu où ils vont être accueillis pour trouver le plus facilement les livres qui leur plairaient. Et Dieu sait que j'aime les libraires et que je les respecte. Ils ont plutôt le sentiment qu'ils vont dans une librairie, qu'ils doivent rentrer armés d'une culture et de connaissances qui vont leur permettre de faire les bons choix ou tout simplement de répondre au libraire s'il dit quel est le dernier livre que vous avez lu, quel genre d'auteur vous aimez, etc., etc. Donc, au risque de passer pour des démagogues, mais je m'en fous, ça fait 12 ans, j'ai l'habitude, selon la formule d'un homme que j'admire énormément dans ce métier, Bernard Fixeau, qui disait « Je fais des livres pour des gens qui n'en lisent pas. » Le numérique, passer des obstacles qui sont réels et importants et qui vont nous coûter très très cher, particulièrement en francophonie, mais également technique, économique, etc. Le numérique propose une accessibilité, propose un anonymat de l'achat du livre et de la lecture qui peut permettre, encore une fois, de déjouer ces résistances et qui peut, en plus, favoriser des genres. Nous sommes ici au Festival des Imaginales, dans un festival qui, depuis le début, célèbre les genres, la science-fiction, la fantasy, l'imaginaire en général, le polar, le roman historique, etc. C'est un détail, mais c'est un détail très important. Quand vous lisez un livre numérique, il n'y a pas de couverture. Personne ne sait ce que vous lisez. Personne ne pourra juger ce que vous lisez. Personne ne pourra dire, en regardant la couverture de votre bouquin, « Qu'est-ce que c'est que cette merde qu'il est lu ?» Ne vous étonnez pas de savoir que la littérature érotique est celle qui bénéficie le plus de l'essor du numérique. La science-fiction, la fantasy, la romance sont les genres qui en bénéficient le plus. La littérature gay et lesbienne sont les genres qui en bénéficient le plus. C'est-à-dire aussi les genres que vous trouvez le moins facilement en librairie. Donc l'offre numérique, elle est également dans son contenu, dans ses choix littéraires, en effet, un complément et une compensation pour des ouvrages ou pour une façon d'acheter des livres ou un mouvement vers l'acquisition de lecture qui souffre énormément de la situation aujourd'hui de la librairie traditionnelle et du livre papier.
Eh bien, puisque tu parles de complémentarité, je crois qu'il y a pas mal de choses à dire. Et est-ce que vous arrivez à savoir un petit peu qui sont vos publics ? Est-ce que vous avez une idée, par exemple, de est-ce que ce sont les acheteurs de livres Bragelonne papier classique qui un jour décident de les mettre sur leur liseuse ou leur tablette ? Ou est-ce que, justement, avec cette offre numérique, vous touchez de nouveaux lecteurs ? C'est sûrement très difficile de le savoir. Mais moi, j'aimerais savoir comment vous raisonnez aussi pour présenter votre offre. Et puisque c'est l'occasion de poser la question, j'en profite. J'avais été surprise, je n'ai pas été vérifiée récemment si c'était toujours vrai, de constater que sur le site des éditions Bragelonne, il était très peu question de l'offre numérique de Bragelonne. Je ne sais pas si le lien est plus net actuellement entre les deux types, finalement, d'offres que vous proposez. Je pense que sur les plateformes, au moins pendant un temps, sur les plateformes de vente, on trouvait les ouvrages numériques. Sur le site de l'éditeur, on avait plutôt une mise en visibilité des ouvrages papier. Quelle forme de complémentarité vous avez maintenant ? Et est-ce que vous envisagez, si ce sont les mêmes lecteurs qui sont intéressés par les deux formes, qui sont intéressés par la lecture tout court, est-ce que vous envisagez un jour de proposer un ouvrage papier avec le livre numérique en même temps, enfin les deux offres simultanément. Je pose la question parce que moi, en tant que grosse lectrice, les livres que j'achète en numérique sont ceux que j'ai dans ma bibliothèque sous forme papier, que j'ai envie d'avoir avec moi parce que j'aime bien les relire, parce que je les ai commencés sous la forme papier chez moi et que je pars en voyage et que c'est plus pratique de les emmener comme ça, mais je veux les deux en fait.
Alors,
mais je suis atypique.
Ouais, non, pas du tout. Il y a beaucoup de questions. En effet, il est encore assez difficile, étant donné que le marché est à peine naissant, d'avoir un peu un paysage statistique aujourd'hui de l'acheteur de livres numériques, de lecteur de livres numériques, etc. Ça commence à prendre forme, d'abord parce que on a mentionné depuis le début de cette conférence les plateformes de vente. Les principales plateformes sont, par ordre d'entrée en scène et de part de marché, la plateforme Apple, l'iBook Store, qui représente globalement au moins 60% du marché. Ensuite, le site Amazon. Et rien que ça, c'est intéressant parce qu'aux États-Unis, et à peu près dans le reste du monde, c'est l'inverse. Aux États-Unis, Amazon domine largement et Apple est l'outsider. Ce qui, éventuellement, pourrait nous permettre est aussi une façon de se rassurer sur... de voir que Amazon n'a pas encore tous les monopoles liés à l'achat du livre sur cette planète. Ils ont démarré plus tard, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, enfin, le Kindle qui a été lancé en France juste avant la foire de Francfort, l'année dernière, la foire de Francfort étant le premier événement du marché du livre au monde, c'est-à-dire en octobre, si mes souvenirs sont bons, n'a pas été spectaculaire. Ce qui montre, comme ce qui rappelle, comme j'ai fait allusion tout à l'heure, des réticences et des résistances en France qui sûrement sont bien moindres dans d'autres pays. Mais, et puis vous avez la FNAC, évidemment, libraire en ligne, etc. Mais la FNAC qui a démarré très difficilement, d'abord avec une offre, avec une liseuse qui s'appelait le FNAC Book, qui posait pas mal de problèmes, et maintenant en partenariat avec un partenaire anglo-saxon qui s'appelle Kobo. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous en avez plein d'autres. Des livres numériques, vous en avez chez Darty. Vous avez plein de petits sites indépendants, finalement de libraires numériques indépendants, qui proposent des livres numériques. Donc, il y a une concentration sur quelques acteurs importants, mais qui est loin d'être exclusive. Et pour revenir sur l'opération en effet des 100 titres qu'on avait proposés à 0,99, il y a un chiffre que je trouve tout à fait formidable, c'est que 63% des ventes sur cette opération sur 24 heures ont été réalisées par des libraires indépendants. C'est-à-dire que c'est surtout à eux que ça a profité. Et par Twitter, dès 7h20 du matin, parce qu'elle a été lancée à 7h du matin, et à 7h20, il y avait plein de tweets qui parlaient de cette opération, assez rapidement, les libraires indépendants se sont félicités, nous ont remerciés, et puis surtout ont dit « Venez chez nous, ça marche du feu de Dieu. » Bon, ce qui est toujours plaisant par les temps qui courent. Donc c'est aussi une... J'en profite quand même pour lutter contre cette idée reçue parmi tant d'autres, c'est que le livre numérique, ça ne profite pas qu'aux riches, et ça ne profite pas qu'aux mastodontes de la vente de livres en ligne. Donc, pour revenir à la question des statistiques, alors, donc c'est très difficile à dire. Indéniablement, il y a pas mal de gens comme toi, Sylvie, c'est-à-dire de gens qui rachètent en numérique des livres qu'ils ont déjà en papier, ou qu'ils ont eu, peut-être qu'ils ont prêté, ou qu'ils ont lu à une époque, qu'ils aimeraient racheter, etc., qui veulent pouvoir trimballer avec eux en permanence, ou en tout cas très facilement. Il y a sans doute une sorte de, peut-être un petit fétichisme, c'est-à-dire que quand on a au lancement publié évidemment la version numérique de Légende de David Gemmell, qui est l'ouvrage emblématique de la Maison Barjeune, s'est trouvé immédiatement numéro 1 des ventes sur l'iBook Store, on peut penser que c'était surtout des fans de Légende et de Gemmell qui ont dit « Ah super, il me le faut absolument !» Et j'étais évidemment d'entre eux. Mais pas seulement, je pense que nous avons il semble, à partir des statistiques que nous obtenons grâce à nos partenaires, en particulier immatériel.fr, qui est le diffuseur principal, qui est le distributeur principal de livres numériques en France, on commence à avoir quelques idées et de faire des sondages, etc. Et indéniablement, il y a une très importante portion des acheteurs de nos livres numériques qui n'avaient jamais entendu parler de nos livres avant, qui ne connaissaient absolument pas Bragelonne et Mélilly. Pourquoi ? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour une raison qui est la visibilité inversement proportionnelle de nos ouvrages et de nos genres par rapport à la librairie traditionnelle. C'est-à-dire que Bragelonne, c'est un très beau succès, mais j'aime avec aigreur à rappeler régulièrement que c'est un très beau succès qui s'est fait sur environ 600 points de vente livres en France, et non pas 17 000 comme ce que peut faire au mieux la diffusion Hachette. Donc, ça veut dire que quand vous allez sur Amazon, sur l'iBook Store, etc., vous n'avez pas, et que vous cherchez un livre de fantasy, ou un livre Bragelonne, ou un livre de Raymond Feist, ou un livre qui parle de, je ne sais pas, magie, ou de vampire, vous n'avez pas à chercher le rayon, vous n'avez pas à fouiller derrière les étagères, vous n'avez pas à demander au libraire, au fait, vous en avez, etc., etc. Il suffit d'inscrire le mot et le moteur de recherche vous les donne immédiatement. Les nôtres, ceux des beaucoup plus gros éditeurs que nous et ceux des beaucoup plus petits éditeurs que nous. Il y a donc, c'est ça aussi la chance que le numérique offre, c'est que la visibilité, la disposition, la proposition de l'offre sur les sites est tout à fait différente de celle de la librairie. Elle pose aussi d'autres problèmes. C'est que quand vous rentrez dans une librairie, vous avez une vitrine, vous avez des tables et vous avez un libraire qui vous conseille, si vous le lui demandez. Là, évidemment, sur l'iBook Store et sur Amazon, c'est tout à fait différent. Et si on vous propose quelque chose, en général, c'est le bouquin que vous avez acheté la dernière fois, parce que c'est ce que l'algorithme vous propose. Donc, c'est évidemment complètement différent. C'est pour ça que c'est complémentaire, c'est pour ça que ça ne le remplace pas. Mais ça permet en effet d'avoir quelques statistiques. Une autre statistique que je voudrais indiquer, que je trouve intéressante, c'est que les genres les plus favorisés par les acheteurs sont différents selon les sites qui les vendent. C'est-à-dire que, par exemple, sur le site Apple, sur l'iBook Store, on vend plutôt de la fantasy. Et sur Amazon, on vend plutôt de la bitlit. Et sur la Fnac, on vend plutôt de la science-fiction. Pourquoi ? Il y a sûrement de bonnes raisons, je ne les connais pas. Mais, mine de rien, c'est intéressant. Ça veut dire que là aussi, il y a, disons, une catégorisation et des choix et des sélections qui sont faites par les lecteurs qui vont aller plutôt vers un site ou plutôt vers un autre selon leurs recherches. Et ce n'est pas nécessairement lié à la mise en avant, c'est-à-dire à une visibilité, en effet, l'équivalent de la vitrine, c'est-à-dire des livres qui auraient été particulièrement portés à l'attention du visiteur. Comme en librairie traditionnelle, mais d'une façon moins importante, la fantaisie se taille la part du lion. La fantaisie, c'est 40% de nos ventes en numérique, la bitlit 25%. Je dis que ce n'est pas tout à fait la même chose qu'en librairie traditionnelle, parce qu'en librairie traditionnelle, la fantasy représente davantage que ces 40%. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la bitlit, qui est le genre challenger depuis quelques années, l'est autant en numérique que dans les librairies traditionnelles. Donc voilà quelques éléments que je peux en effet porter à votre attention à partir d'un an et demi d'expérience, donc c'est vraiment le tout début. En tout état de cause, et pour prolonger ce que j'ai dit sur la complémentarité, la vente de livres numériques aujourd'hui, en francophonie, n'endommage pas la vente de livres papier. Tout simplement parce que si 1% de nos chiffres d'affaires endommageait véritablement notre chiffre d'affaires, enfin, ça se verrait. Donc ce n'est pas le cas, pour plein de raisons. Une raison majeure, c'est évidemment l'équipement. C'est que, quand même, le livre numérique, il faut acheter un appareil pour pouvoir lire les livres. Ce qui n'est pas très naturel, on n'est pas très habitué. D'habitude, il faut des mains et des yeux, ou un écouteur si on est malvoyant ou non-voyant. Ce que, également, la liseuse électronique apporte de l'aide, surtout pour les malvoyants. C'est-à-dire que la question du livre en gros caractère, par exemple, est largement... c'est une fonction qui est remplie par la liseuse assez facilement. Donc ça ne le remplace pas et ça n'endommage pas les ventes. Je pense que si les ventes du livre papier sont endommagées, parce que ça fait quand même partie de l'intitulé de cette parlotte, ce n'est pas par le livre numérique, ou en tout cas pas encore. C'est sans doute déjà quand même un peu le cas aux États-Unis, qui est le marché le plus avancé. Mais en même temps, c'est difficile à lire, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots, parce que le livre papier a été tellement désagrégé commercialement aux États-Unis depuis quelques années que c'est quand même difficile, enfin on ne peut pas blâmer uniquement ou significativement le livre numérique. Il y a 3 ans, 50% de la distribution du livre papier aux États-Unis a fait faillite. C'est-à-dire que quasiment du jour au lendemain, 50% des points de vente aux États-Unis ont cessé d'être alimentés en livres. C'est-à-dire qu'il y a des régions entières sur des centaines de kilomètres aux États-Unis où vous ne pouvez pas acheter un livre papier parce qu'il n'y en a pas. Si vous superposez la carte aux États-Unis de la présence de la librairie traditionnelle, la librairie tout court, et la carte des plus gros acheteurs de livres numériques, elle coïncide parfaitement. Pour le dire autrement, quand vous habitez au fin fond du Wisconsin ou du Massachusetts et que la seule façon décente et pratique d'acquérir de la lecture, c'est soit de commander du livre papier sur Amazon, soit de télécharger directement un livre sur votre liseuse en 10 secondes chrono, eh ben, fatalement, vous achetez un Kindle et vous téléchargez. Et vous lisez ce que vous voulez à moins cher et plus rapidement. Donc, il y a également, évidemment, un problème d'approvisionnement. Nous n'avons pas encore, et je touche du bois, un tel problème d'approvisionnement de livres papier en France. Donc, tant qu'il y aura une présence suffisante de la librairie traditionnelle, on n'aura pas à recourir par défaut, et non pas par choix, par défaut, à l'achat du livre numérique. Il y avait un autre aspect dans ta question que j'ai oublié.
Non, je crois pas. De toute façon, des questions, on en a des tonnes, mais on a plus que 10 minutes, donc je vais les faire très vite.
À l'offre couplée, rapidement.
L'offre couplée.
L'offre couplée, c'est deux choses. La première, c'est la publication simultanée, c'est-à-dire de publier le livre numérique, le format numérique, l'édition numérique. Tout ça, c'est des questions. Hein. On utilise tous ces mots, mais croyez-moi, il y a des gens au lieu qui se prennent bien la tête, ou des avocats qui affûtent leurs honoraires pour décider si le numérique, c'est un format, une édition, etc. Bon. Un droit de publication différent, etc. Mais l'idée de, en effet, publier le livre numérique en même temps que l'édition papier, ça, on le fait couramment. Et on se rend compte qu'on accroît les ventes de livres numériques quand on fait ça, mais on n'endommage pas les ventes de livres papier par rapport à nos statistiques générales. Ça veut bien dire que c'est complémentaire. Ça permet aussi d'ajouter à la promotion de livres papier. Il y a des gens qui aperçoivent le livre numérique et qui, en vérité, vont plutôt acheter le livre papier. C'est aussi une façon de faire connaître le livre, d'assurer sa promotion. L'offre couplée, c'est l'idée également de pouvoir vendre en même temps un exemplaire numérique et un exemplaire papier. Soit en ajoutant un code dans l'exemplaire papier qui vous permettra de télécharger le livre numérique gratuitement. Comme dans les DVD, souvent il y a une copie digitale. C'est-à-dire que si vous achetez un DVD et que vous le cassez, ben vous pourrez toujours regarder votre film parce que vous pourrez le télécharger. Vous avez le droit parce que vous en avez acheté le droit. C'est pour l'instant compliqué et difficilement réalisable. On y songe, mais on songe à essayer de le faire avec les libraires traditionnels, c'est-à-dire de faire en sorte que quand vous achetez un livre papier dans une librairie traditionnelle, vous puissiez acheter également un exemplaire numérique pour vous et que ça serve au libraire, c'est-à-dire que le libraire touche des sous dessus. Bon. C'est très compliqué à mettre en place, mais ça peut être une possibilité en effet pour finalement lier les deux et assurer les deux.
On n'a plus beaucoup de temps, mais moi il y a une question que je voulais te poser qui apparaît un peu en creux dans tout ce que tu nous as dit. Si on réfléchit au premier débat qu'on avait sur l'arrivée du numérique, on a eu il y a quelques années une vision du numérique où on disait en gros le livre numérique va être complètement différent de ce qu'est actuellement l'ouvrage papier, puisqu'il est dans un environnement interactif où on peut mélanger du texte, de la vidéo. L'objet livre va devenir quelque chose d'une autre nature où chaque lecteur aura son propre parcours de lecture, où on va mélanger de l'image, du son, du texte, avec des formes de rapport au livre qui seront très différentes. Et en fait, dans tout ce que tu nous dis, il me semble qu'il y a une idée forte qui est la lecture est un acte inchangé, le texte est quelque chose qui se suffit à lui-même, on a un rapport à la lecture qui est stable et qui n'est pas remis en cause par le numérique. Et je trouve ça très intéressant d'arriver à ce constat-là. Il y a des tas d'objets hybrides qui apparaissent partout, il y a des jeux vidéo dans lesquels on trouve du scénario, du texte sous des formes diverses. Mais est-ce que ton bilan, c'est la lecture et le livre indépendamment de son support, c'est-à-dire l'objet virtuel ou physique, est-ce qu'il va rester inchangé?
Alors, je te dirais, pour l'instant, oui. Pour deux raisons. La première, c'est qu'en effet, un livre dans lequel un livre numérique qui inclurait du son, des images, etc., c'est tentant, hein, moi, l'idée, par exemple, de lire un livre et à la fin d'avoir une interview vidéo de l'auteur qui en parle, je trouve ça formidable, ou des notes, ou plein de choses, etc. Ça pose d'abord un problème de droit, c'est-à-dire que globalement, à 99%, pour l'instant, les ayants droit, c'est-à-dire les gens auprès de qui on achète les droits de publier le livre, de le traduire ou de le publier dans sa propre langue, refusent de nous céder les droits de publier du livre enrichi. Pour une raison majeure, c'est que, et je vous donne un exemple très concret, parce que c'est un agent que je connais bien, c'est en l'occurrence l'agent de Ken Follett, qui me dit « Les piliers de la Terre, c'est publié en 35 langues. Si demain, j'accorde à ces 35 éditeurs la possibilité de faire un livre enrichi, et que je dois en vérifier le contenu, je vais recevoir des livres enrichis qui pourront avoir des dizaines d'heures de vidéos, d'interviews, de textes supplémentaires, de musique, de tout ce que vous voulez, et j'ai le devoir, puisque je suis au service de l'auteur, de vérifier ce contenu pour vérifier que l'auteur est d'accord avec ça. Pour ça, il faut que j'embauche une armée de gens qui vont passer leur temps à ça. Je n'en ai pas le temps, je n'en ai pas envie, je n'en ai pas les moyens. Et franchement, est-ce bien nécessaire? Donc, c'est un problème, encore une fois, de temps, d'argent, etc. Et deuxième aspect de ma réflexion, qui rejoint exactement ce que tu viens de dire, est-ce bien nécessaire? Franchement, vous avez besoin, vous, d'un livre qui fait de la musique? Voilà. Moi pas, si je lis, je lis, si je veux écouter de la musique, j'écoute de la musique, et je peux même faire les deux en même temps, et j'ai même pas besoin de livres numériques pour ça. Par contre, s'il s'agit de créer un objet un peu différent, et donc finalement une œuvre multimédia, comme on dit, qui inclut de la lecture, ah oui, parce que par exemple, il y a des livres numériques pour enfants qui sont absolument formidables. Qui vous permettent par exemple d'enregistrer la voix de la maman et c'est elle qui va dire le livre pendant que les petits cochons ils se promènent sur l'écran, etc. Des applications pour iPad qui sont formidables. Mais là, c'est des applications, c'est plus du livre numérique. Et là aussi, une armée d'avocats sont en train de se battre pour savoir la différence entre une œuvre multimédia, livre numérique, etc. Donc, oui, pour te répondre en un mot, je pense qu'aujourd'hui, le livre numérique, c'est le même livre que celui qu'on lit sur du papier, mais sur du numérique, avec des avantages et des inconvénients. Ce n'est pas une autre forme d'expérience, ce n'est pas une autre forme d'œuvre. Par contre, je pense qu'il est très intéressant d'imaginer, de concevoir, de préparer ce que mes compères impliqués dans le numérique à Bragelonne appellent le livre 2.0, c'est-à-dire quelque chose qui sera un peu différent, et donc une lecture, une expérience différente, mais différente aussi parce qu'elle inclura des éléments, des aspects, d'autres œuvres qui seront tout à fait fascinantes, attractives, etc., et qui ne seront plus la réplique de l'expérience du livre papier.
On n'a plus beaucoup de temps. Je crois qu'il y a des choses qui ressortent très clairement de tout ce que tu nous as expliqué. C'est le fait que, pour nous lecteurs, finalement, le bouleversement n'est peut-être pas si phénoménal, que pour l'éditeur, le travail reste globalement inchangé. Tu nous parlais de ton métier pour bien le situer par rapport à d'autres. Finalement, le plus gros bouleversement, il est probablement dans la chaîne de production et à un autre niveau que celui de l'éditeur, avec tout ce qui est actuellement circuit de diffusion, distribution, vente. Les libraires sont les premiers à prendre des questions de plein fouet. Mais est-ce que pour l'éditeur et pour le lecteur, c'est vraiment une question significative de se demander si le livre papier a un avenir?
Je pense que l'existence et l'avenir du livre papier, c'est toujours une question importante parce que le livre, c'est important tout court. Je pense qu'il ne faut pas trop craindre pour le livre papier aujourd'hui, surtout pas par rapport au numérique. Il ne faut pas non plus être un prosélyte obsessionnel en faveur du livre numérique. Je ne le suis pas. Je suis ravi de vous faire part aujourd'hui, de vous avoir fait part de notre expérience. Mais je ne dis pas que le livre numérique remplacera le livre papier. Et que tout disparaîtra, etc. Mais je veux dire deux petites choses en conclusion. La première, c'est que on n'arrête pas de progrès, hein, comme disait ma grand-mère. Donc, le livre numérique, il est là. Donc, le refuser ne sert à rien. Il faut s'en emparer, les éditeurs, les auteurs, les artistes, les bibliothécaires, les libraires, etc., de façon à s'en servir le mieux possible pour servir la cause qui nous importe à tous, à savoir la lecture. Le nier serait non seulement une erreur, mais même une erreur grave et dommageable. La deuxième chose, c'est que, et j'espère que c'est ce que j'ai contribué à faire là pendant quelques instants, il y a énormément d'idées reçues et de préjugés et de fausses informations sur le livre numérique qui court, parce que ça suscite une crainte pour le droit d'auteur, une crainte pour la rémunération des auteurs, et la survie de la librairie, de la bibliothèque, etc., et également la nature de la mission de tous ces gens-là. Et je le comprends, je vous dirais que la meilleure façon d'apprendre à nager, c'est de sauter dans l'eau, et je suis heureux que nous l'ayons fait, bien avant, somme toute, qu'on nous attende dans le grand bain. Et je pense qu'il y a donc évidemment un travail important, non seulement d'information, mais aussi d'écoute, C'est-à-dire que il faut être ouvert à une information et essayer de comprendre comment peut fonctionner le livre numérique au-delà de toutes les craintes et de tous les préjugés qu'on entend. Et je lis très régulièrement des tribunes, souvent de la part d'écrivains, ou des papiers, des blogs, etc., qui disent n'importe quoi sur les livres numériques, qui m'expliquent comment je rémunère les auteurs alors que ce n'est pas comme ça que je les rémunère, qui m'expliquent que mes contrats sont uniques alors qu'ils ne les ont jamais vus. Et j'ai conversé récemment avec l'une des plus traductrices les plus éminentes de notre domaine, Isabelle Troin, avec des échanges nourris sur la rémunération des traducteurs notamment, qui s'est fini par... Je me permets de la citer parce que je pense que c'est bien. Elle m'a dit, mais tu ne crois pas que ça serait bien de dire tout ça sur un blog ou sur... Et je lui ai dit, je ne sais pas, parce que je me méfie beaucoup des débats sur Internet et je pense que ça va partir en vrille tout de suite. Par contre, faire de la formation bibliothèque, faire des conférences dans les festivals, les salons, etc., parler beaucoup avec les libraires, se donner tous ensemble les moyens et la possibilité de maîtriser tout ça, ça, je pense que c'est extrêmement important parce que non seulement... Je vous ai dit tout à l'heure, la guerre contre le piratage, on l'a perdue avant d'avoir commencé, et somme toute, c'est pas plus mal, comme ça, c'est une guerre de moins à faire, hein. c'est plutôt pas mal, mais non seulement le numérique, il est déjà là, mais il faut en effet s'en emparer et le contrôler, sinon, quelques gros Pac-Man américains, et pas seulement américains, vont s'en emparer à notre place, et quand je dis nous, je veux dire que ici même, il y a un an, je me suis adressé à des auteurs et à des éditeurs indépendants, comme moi, en leur disant, fédérons-nous. Moi, qui suis très avancé, moi, Brajlon, qui suis très avancé dans la diffusion et l'édition numérique, je vous propose d'en faire avec moi. Et donc, nous avons créé un organe de diffusion numérique qui s'appelle Identes, qui a été annoncé officiellement la semaine dernière, qui est un diffuseur numérique et qui prend en diffusion d'autres éditeurs indépendants, en leur disant, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie et vous n'avez pas les moyens de vous lancer dans le numérique comme nous l'avons fait, tout le travail que nous avons fait, ça peut vous servir à vous aussi. Et dans les indépendants, il y a des tout petits qui font 4 bouquins par an et il y en a des très gros qui font beaucoup plus de chiffre d'affaires que moi. Voilà, c'est aussi un aspect qui, je pense, qui est vraiment important et qui, d'une certaine façon, me méfie beaucoup de ce mot, a une dimension politique. À savoir la politique de la lecture et la politique du livre. Et je pense que devenir un acteur de l'édition numérique aujourd'hui, c'est faire des efforts en faveur de la politique, de la lecture et du livre. Et je vous remercie infiniment pour votre attention.
Merci Stéphane.